Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Trémolo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue pour cette première du canard siffleur mexicain. Que nous présentes-tu ?
C'est moi qui ouvre le bal.
C'est bien ça.
Alors écoute... Aujourd'hui, j'avais envie de t'amener un bouquin un petit peu rare, un petit peu épuisé. En tout cas, on va avoir du mal à le trouver, mais c'est pour faire référence aux auteurs et on pourra aller fouiner si on veut avoir les écrits des auteurs en question. Il s'agit de trois auteurs qui ont écrit à peu près 100 ans. On va, je pense, fêter les 100 ans de Dada et de ces auteurs-là bientôt, si ce n'est à commencer déjà. D'abord, Arthur Cravant. Donc le bouquin s'appelle « Trois suicidés de la société ». Bon, on va pas s'attarder sur le titre, ils sont effectivement tous morts jeunes, et parfois violemment. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc Arthur Cravant, je sais pas, j'ai pas trop envie de te parler de la vie forcément en détail de la bibliographie de ces auteurs-là, sinon par petit jet. Dans le bouquin en question, il y a des petites annotations comme ça en guise de biographie. Donc je commence par lire ça. Ça, c'est des citations de plusieurs personnes sur Cravant, qui se définissait lui-même comme poète boxeur. Alors, c'était un grand type, très beau, très gentil, très bien habillé et un peu lent. Van Dongen, c'est celle qui écrit ça. Cravant mesurait plus de 2 mètres, son corps d'athlète admirablement proportionné supportait une tête olympienne, une frappante régularité. Mais ses yeux avaient souvent une expression vague et étrange. Gabriel Buffet-Picabia. Arthur Cravant était un personnage exceptionnel et inquiétant qui réunissait en lui, sans préméditation, tous les éléments de surprise qu'on pouvait désirer dans une démonstration, pour une démonstration qu'on n'appelait pas encore Dada. Et lui-même a dit « J'étais sérieux, mais par perversion. » Il a dit aussi « Ma mère et moi, nous ne sommes pas nés pour nous comprendre. » En fait, il s'appelait Fabian Avenarius Lloyd. Il est né en 1887 en Suisse et apparemment ce serait le neveu de Oscar Wilde. Je dis apparemment parce que les choses ne sont pas vraiment fixées. Voilà, il avait un frère aîné qui s'appelait Otto. Il a dit « l'appelait mon crétin de frère ». Sa mère s'est remariée assez tôt. Il passe son enfance à Lausanne. Il parle de son enfance de garçon terrible dans tous les lycées, écoles et instituts d'Europe. Puis il part en 1903 à New York. Puis il gagne la Californie. Il fait différents métiers. Il a écrit, pour se décrire, Arthur Cravant, chevalier d'industrie, marin sur le Pacifique, muletier, cueilleur d'oranges en Californie, charmeur de serpents, rat d'hôtel, neveu d'Oscar Wilde, bûcheron dans les forêts géantes, ex-champion de France de boxe, petit-fils du chancelier de la reine, chauffeur d'automobile à Berlin, cambrioleur, etc., etc., etc.
Une vie pleine.
Une vie éclair, mais pleine, ouais. Ensuite, il rentre en Europe en 1909, séjour à Berlin, un autre à Munich, il s'installe à Paris, il adopte le pseudonyme d'Arthur Cravant, il a dit... Ce qui me faisait le plus de mal, c'était de me dire que j'étais à Paris quand il y avait des lions et des gibbons. Donc à ce moment-là, il se met à écrire une petite revue qui s'appelle Maintenant. 5 numéros, complètement introuvables, mais les surréalistes naissants s'intéressent à cette revue. André Breton a écrit d'avril 1912 à avril 1915, donc on est vraiment 100 ans avant aujourd'hui. Paraissaient et disparaissaient les 5 numéros aujourd'hui introuvables de la petite revue Maintenant, dirigée par Arthur Cravant. En haine des librairies étouffantes, où tout se confond et à l'état neuf, déjà tombe en poussière, Cravant pousse devant lui le stock des exemplaires de Maintenant dans une voiture de 4 saisons. Le numéro 25 centimes. Il a écrit « Je me fous de l'art et pourtant si j'avais connu Balzac, j'aurais essayé de lui voler un baiser ». Il se fait connaître, il se fait scandale partout où il passe. Il écrit sur le salon des artistes indépendants qui sont des peintres. Il se fait provoquer en duel par Apollinaire. Il écrit sur Marie Laurencin, une peintre assez en vue à l'époque. En voilà une qui aurait besoin qu'on lui relève les jupes et qu'on lui mette une grosse quelque part pour lui apprendre que l'art n'est pas une petite pose devant le miroir. Alors, à ce propos... j'essaie de retrouver la page. Il a écrit ensuite. Bon, je vais.
Trémolo feuillette.
Là-dessus. J'avais la suite de cette petite citation, mais bon, je vais la retrouver plus tard. Donc je poursuis, voilà, c'est des petites citations qui retracent un petit peu le personnage. Il est condamné à 8 jours de prison pour des injures à l'adresse de l'épouse du peintre Robert Delaunay. Il déclare « Je ne veux pas me civiliser ». Arrive la guerre en 14. On le retrouve dans l'entourage de Picabia à Barcelone, à Tossa del Mar. Voilà, ensuite il retourne aux Amériques. Il s'embarque à Barcelone le 25 décembre 1916 à destination de New York. Parmi les passagers, il y a Léon Trotsky qui déclare un boxeur qui écrit, un boxeur, littérateur à l'occasion, cousin d'Oscar Wilde, avouait franchement qu'il aimait mieux démolir la mâchoire à des messieurs yankees dans le noble sport que de se faire casser les côtes par un Allemand. Et la femme de Picabia écrit « Puis nous apprîmes un beau jour que Cravant était parti pour les États-Unis, nous l'y retrouvâmes en 1917, en fort mauvaise posture. Il était sans aucune ressource et ne subsistait que grâce à des amis fortunés qui subvenaient à ses besoins, parmi lesquels le peintre Frost. »
Gesto, copo cai, trapo caliente, made in Shanghai, dama de norama dourada dentro na boca serpente, é tato verbal. Olá, Vênus. água na asa. Olá, Vênus, dá uma dedada. Três jarzar a nome, traz água na asa. Do elétrico sai um desejo na rua do sol. Ela tem o balanço do Tejo e na boca o anzol. É vermelho o batom de verniz que ela usa como quem diz: a tua sorte chegou. Da noite faz palco e a cena de novo ensaiada. Isto é mal, mas a comédia está lançada. E se alguém pergunta como se chama, ela diz: eu sou Carmen, Carmen Miranda.
Voilà, il fait une conférence. Il déclare qu'il va parler de l'humour moderne, mais en fait il ne fait que faire des hoquets et commence à se déshabiller sur scène. Du coup, on l'arrête et on va le mettre en prison. Heureusement, quelqu'un intervient pour le sauver. Marcel Duchamp a déclaré: quelle belle conférence. Voilà, tout ça pour dire que le personnage était scandaleux partout où il passait. Il a très peu écrit, on a quelques écrits qu'on peut acheter. J'ai choisi de vous lire un extrait de Poète et boxeur, ou L'âme du XXe siècle.
Par le neveu de Oscar Wilde.
Par, voilà, Arthur Cravant. Ouïa, 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 ouïa. Je partais dans 32 heures pour l'Amérique. De retour de Bucarest, depuis deux jours seulement, j'étais à Londres et j'avais trouvé l'homme qu'il me fallait, qui me payait tous les frais de déplacement pour une tournée de 6 mois, sans garantie, par exemple. Mais ça, je m'en foutais. Et puis, je n'allais pas tromper ma femme. Merde alors. Et puis, vous ne devineriez jamais ce que je devais faire. Je devais lutter sous le pseudonyme de Mysterious Sir Arthur Craven, le poète aux cheveux les plus courts du monde. Petit-fils du chancelier de la reine, naturellement, neveu d'Oscar Wilde, re-naturellement, et petit-neveu de Lord Alfred Tennyson, re-re-naturellement. Je deviens intelligent. Ma lutte était quelque chose de tout à fait nouveau, la lutte du Tibet. La plus scientifique connue, bien plus terrible que le jujitsu. Une pression sur un nerf ou un tendon quelconque et pfft, l'adversaire, qui n'était pas acheté, rien qu'un tout petit peu, tombait comme foudroyé. Il y avait de quoi mourir de rire. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Sans compter que ça pouvait être de l'or en barre, puisque j'avais calculé que si l'entreprise marchait bien, elle pouvait me rapporter dans les 50 000 francs, ce qui n'était pas à dédaigner. En tout cas, ça valait toujours mieux que le truc de spiritisme que j'avais commencé à monter. J'avais 17 ans et j'étais villa et je rentrais porter la nouvelle à ma moitié qui était restée à l'hôtel dans l'espoir d'en tirer quelque chose avec deux cons aux viandes ennuyées, une espèce de peintre et un poète qui m'admiraient et m'avaient rasé pendant près d'une heure avec des histoires sur Rimbaud, le Vers Libre, Cézanne, Van Gogh, oh là là là, je crois Renan et puis je ne sais plus quoi. Je trouvais Madame Cravant seule et je lui dis ce qui m'était arrivé tout en faisant mes malles car il s'agissait de faire vite. Je pliais en deux temps trois mouvements mes chaussettes de soie à 12 francs la paire, qui m'égalait Raoul le Boucher, et mes chemises où traînaient des restes d'Aurore. Le matin, je donnais ma gaule diaprée à ma femme légitime, je lui remis après 5 fraîches abstractions de 100 francs chacune, puis j'allais faire mon pipi de cheval. Le soir, je jouais quelques troumlala sur mon violon. Je baisais la bisloquette de mon bébé et fis des câlins-câlins à mes beaux gosses. Puis, en attendant l'heure du départ, tout en rêvant à ma collection de timbres, je foulais le plancher de mes pas d'éléphant et je balançais mon citron splendide en respirant le parfum si touchant et partout répandu d'épée. 18h15, fuit, en bas des escaliers, je sautais dans un taxi. C'était l'heure de l'apéritif. La lune immense comme un million présentait beaucoup d'analogies avec une pilule digérée pour les lombagos bleus. J'avais 34 ans et j'étais cigare. J'avais plié mes 2 mètres dans l'auto où mes genoux avançaient 2 mondes vitrés. Et j'apercevais sur les pavés qui répandaient des arcs-en-ciel, et le cartilage grenat croisait les beefsteaks verts. Les spécimens d'or frôlaient les arbres aux rayons irisés, les noyaux solaires des bipèdes arrêtés. Enfin, avec des franges roses et des fesses aux paysages sentimentaux, les passants du sexe adoré. Et de temps à autre, je voyais encore parmi les chairs enflammées apparaître des phénix resplendissants. Mon impresario m'attendait, comme convenu, sur le quai 8 de la gare, et tout de suite je retrouvais avec plaisir sa vulgarité, sa joue que j'avais déjà goûtée comme du veau aux carottes, ses cheveux qui fabriquaient du jaune et du vermillon, son intellect de coléoptère, et, près de la tempe droite, un bouton d'un charme unique, ainsi que ses pores rayonnant de son chronomètre en or. Aller jusqu'au bout de ce texte qui est un peu plus long. Il n'est pas tellement plus long, ce sont souvent des très courts textes qu'il a écrits, publiés dans cette petite revue maintenant. J'espère que j'ai donné une petite envie à certains d'aller voir de plus près Arthur Cravan.
D'aller voir, pas facile, puisque tu disais que l'édition 10-18 est épuisée.
Ah oui, ce livre-là est épuisé, mais on doit pouvoir le trouver dans d'autres éditions des œuvres complètes. Quand je regarde ça... c'est sûr.
Et qu'est-ce qui te plaît?
Ben, écoute, ça me plaît parce que je vois tout à fait ce qui a pu plaire à André Breton, surréaliste, alors qu'il était arrivé avant eux. Ce côté débridé, ce refus de la littérature sérieuse, de la littérature tout court, pour aller dans des textes nouveaux, voilà, qui font à l'époque, je pense, qui détonnent un petit peu.
Il me semble, mais je suis évidemment partisan, il me semble que la lecture de la revue maintenant, à elle seule, devrait le prémunir contre tout risque de disparition. C'est que, même si l'on se situe du simple point de vue historique, maintenant, c'est la première revue Dada avant Dada. Si Breton et les autres ont été commotionnés par Cravan, c'est parce qu'ils ont eu le sentiment que ce type-là avait osé, dans l'irrespect, le sacrilège, le scabreux, etc., quelques années avant eux, au-delà même de ce qu'ils pouvaient imaginer. Vous devez connaître, comme moi, le fameux entretien avec André Gide que Cravan raconte dans Maintenant, qui est un summum de rosserie, à un moment où Gide est déjà, pas autant que plus tard, est déjà une sorte de dieu des lettres, et Cravan le piétine avec une allégresse qui est absolument irrésistible aujourd'hui. Donc, il en reste cela, et probablement, ce qu'on disait tout à l'heure, cet homme qui ne s'est jamais laissé prendre à aucun des rôles, à aucun des esprits de sérieux que la société essaie de nous coller sur le dos en permanence.
Ah, c'est ça, il est dans aucune école.
Il est dans aucune école, il est dans aucun mouvement, il ne signe aucun manifeste. Le mot qui vient naturellement à l'esprit, c'est le mot liberté, c'est l'homme libre par excellence, jusqu'à la trahison, jusqu'au renégat, jusqu'à une sorte de fantaisie qui peut le faire décider d'un moment à l'autre de partir ou de rester. Rien ne le retient. Je trouve que nous sommes très retenus quant à nous. Et donc, c'est l'exemple même du vagabond que peut-être un certain nombre d'entre nous aimeraient être et n'arrivent pas à devenir.
André Breton.
Fondé durant la guerre en Amérique, poursuivant maintenant sa publication à Paris, la revue 291, puis 391 de Francis Picabia, a rappelé l'attention sur l'activité d'Arthur Cravan, poète et boxeur, se donnant pour le neveu d'Oscar Wilde, qui, aux approches de la guerre, éditait la petite revue Maintenant, d'une verdeur de ton inconnue jusqu'à elle.
La légende est née très tôt, puisque ça a commencé avec Picabia, qui signait d'un pseudonyme Faramousse dans sa revue 391. Et qui parlait d'une conférence en 1919 d'Arthur Cravan, une conférence sur l'art égyptien. Et puis il y a des allusions à Tahiti, où on dit qu'il est à Tahiti, ensuite on dit qu'il est au Japon, on dit qu'il est revenu à Paris et qu'il vend des je ne sais plus quoi, enfin bon. Donc, et d'ailleurs, assez récemment aussi, on retrouve sa trace dans un roman de la rentrée littéraire française, qui s'appelle « La cinquième saison du monde ». Et on retrouve cette fois-ci Arthur Cravan à Fiume, tandis que la ville donc, était aux mains du poète Gabriele D'Annunzio. Donc c'est là où on voit que Cravan est encore présent aujourd'hui, c'est un jeune écrivain, et qu'il continue d'influencer la littérature, et qu'il continue... On retrouve aussi dans la musique, dans les groupes de la contre-culture, les punks, les années 80, 70, 80...
Figure comme ça, c'est emblématique.
Il est partout.
Sans qu'on sache exactement qui c'est.
Arthur Cravan n'est pas mort. Arthur Cravan est vivant. Il avait écrit un article, Oscar Wilde est vivant. Non, maintenant. Et c'est vrai qu'Arthur Cravan est vivant.
Together and try and look trendy. I think it's a shame.
Voilà, on parle de Arthur Cravan, mais aussi de Jacques Rigaud et de Jacques Vacher. Bon, j'avais envie de parler de Jacques Rigaud aussi, je ne sais pas si on a le temps.
Oui.
Tu crois ?
Oui.
Bon, alors. Donc Jacques Rigaud, lui, était un peu plus reconnu par les dadaïstes comme un des leurs. Qu'est-ce que j'avais envie de te lire de lui ? Lui, par contre, ses écrits sont disponibles chez Gallimard de manière assez claire. Assez facile à trouver. Alors,
qui est ce personnage, d'abord?
Jacques Rigaud, il est né à peu près dans les mêmes années, 1898. Il a fait ses études à Paris. Au départ, un peu, il s'est fait remarquer par son excentricité aussi, un peu comme Cravan. Il s'engage dans l'armée, il y reste longtemps, jusqu'en 1919, il fait la guerre. Et il se fait remarquer par des petits textes qui sont publiés, notamment dans Littérature ou chez Gallimard à l'époque. On ne sait pas. Enfin, il y a sûrement des bibliographies que je n'ai pas lues qui parlent de sa vie, mais moi, j'ai pas beaucoup d'informations sur le personnage. J'ai simplement ses textes et ce livre-là. Donc, par exemple, il y a un texte qui s'appelle Agence générale du suicide. T'es beaucoup préoccupé par le suicide. Agence générale du suicide. Société reconnue d'utilité publique, capital 5 millions de francs, siège principal à Paris, 73 boulevard Montparnasse, succursale à Lyon, Bordeaux, Marseille, Dublin, Monte-Carlo, San Francisco. Grâce à des dispositifs modernes, l'AGS est heureuse d'annoncer à ses clients qu'elle leur procure une mort assurée et immédiate, ce qui ne manquera pas de séduire ceux qui ont été détournés du suicide par la crainte de se rater. C'est en pensant à l'élimination des désespérés, élément de contamination redoutable dans une société, que Monsieur le ministre de l'Intérieur a bien voulu honorer notre établissement de sa présidence d'honneur. D'autre part, l'AGS offre enfin un moyen un peu correct de quitter la vie, la mort étant de toutes les défaillances, celle dont on ne s'excuse jamais. C'est ainsi qu'ont été organisés les express enterrements, repas, défilés des amis et des relations, photographies ou moulage du visage après la mort au choix, remise des souvenirs, suicide, mise en bière, cérémonie religieuse, facultative, transport du cadavre au cimetière. L'AGS se charge d'exécuter les dernières volontés de messieurs et madame, ses clients. Nota, en aucun cas l'établissement n'étant pas assimilé à la voie publique, les cadavres ne seront transportés à la morgue. Ceci pour rassurer quelques familles. Tarif, électrocution 200 francs, revolver 100 francs, poison 100 francs, noyade 50 francs, mort parfumée, taxe de luxe comprise 500 francs, pendaison, suicide pour pauvres 5 francs. La corde est vendue au prix de 20 francs le mètre et 5 francs pour 10 centimes supplémentaires. Demandez le catalogue spécial aux express enterrements. Pour tout renseignement, s'adressez à Monsieur Jacques Rigaud, administrateur principal, 73 boulevard Montparnasse, Paris 6e. Il ne sera fait aucune réponse aux personnes exprimant le désir d'assister à un suicide. De mes 24 heures, de mes 70 rides, de mes 30 ans, de mes anticipations, de mes amours et de mes dettes, de mes solitudes et de mes contacts, du plus et du moins, je cherche à répondre. Il ne peut s'agir que de poser le problème et de s'arrêter. Celui qui dit « il n'y a pas de réponse » se condamne. Que ceux qui n'ont pas répondu quittent le jeu. La partie reste à ceux qui n'ont pas trouvé. L'immobilité des objets me fascine. Je regarde le fauteuil jusqu'à me prendre pour lui. Erreur, tout mouvement. Mes cinq sens ne m'appartiennent pas. On n'a qu'une chose à soi, c'est son désir. Je voudrais vivre à mon propre compte. Et enfin, il n'y a pas de raison de vivre, mais il n'y a pas de raison de mourir non plus. La seule façon qui nous soit laissée de témoigner notre dédain de la vie, c'est de l'accepter. La vie ne vaut pas qu'on se donne la peine de la quitter. C'est bien commode, le suicide. Je ne cesse pas d'y penser, c'est trop commode. Je ne me suis pas tué. Un regret subsiste. On ne voudrait pas partir avant de s'être compromis. On voudrait, en sortant, entraîner avec soi Notre-Dame, l'amour ou la République. Voilà, il était né en 1899 et le 5 novembre 1929, il s'est tiré une balle dans le cœur. Je termine avec une petite citation d'André Breton. Le plus beau présent de la vie est la liberté qu'elle vous laisse d'en sortir à votre heure. Liberté au moins théorique, mais qui vaut peut-être la peine d'être conquise par une lutte acharnée contre la lâcheté et tous les pièges d'une nécessité faite homme. En relation par trop obscure, par trop peu suivi, avec la nécessité naturelle.
Très mollo, merci.
Léo Ferré, Mouloudi,
Moustaki, c'est mon frère.